lesen vor dem Gebet.
Je chanterai, nous voulons lire, le psaume 101. Le psaume 101, verset 1, je chanterai la grâce et la justice. Je jouerai pour toi, ô Seigneur. Verset 2, je prendrai garde à la conduite sans faute. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans la pureté du cœur au sein de ma maison. Verset 3, je ne garderai pas mes yeux sur les choses honteuses. Je hais les actions des rebelles. Elles ne s'attacheront pas à moi. Verset 4, le cœur faux restera loin de moi. Je ne connaîtrai pas le méchant. Verset 5, celui qui calomnie son prochain en secret, je le réduirai au silence. Celui qui a des yeux hautain et un cœur orgueilleux, je ne le supporterai pas. Verset 6, j'aurai les yeux sur les fidèles du pays. Ils habiteront avec moi. Celui qui marche dans les voies de la piété me servira. Verset 7, celui qui commet la fraude n'habitera pas au milieu de ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas devant mes yeux. Verset 8, chaque matin, je détruirai tous les méchants du pays et j'exterminerai de la ville du Seigneur tous ceux qui font le mal. Levons-nous pour prier. Dieu fidèle, nous te remercions du fond de nos cœurs, même pour cette heure de grâce. Et nous sommes de nouveau ici, uniquement pour louer ta grâce, pour chanter ton nom glorieux, pour t'offrir l'honneur et la reconnaissance. Seigneur, nous sommes ton peuple, le troupeau de ta main, tu nous as fait pour la gloire de ton nom. Et nous sommes de nouveau réunis ici ce soir pour être en communion avec toi, ô Seigneur. Fais-nous la grâce, Seigneur, de t'apporter l'honneur et la louange comme il se doit, de chanter la grâce et la justice et de jouer pour toi, notre Dieu, car tu marches au milieu des louanges de ton peuple. Seigneur, aide-nous à être attentifs à la conduite que nous avons. Qu'elle ne soit pas erronée. Aide-moi, aide-nous tous. Aie pitié de nous, ô Seigneur. Et regarde vers le bas ce soir, vers nous, et bénis-nous de la richesse de ta grâce. C'est mon désir profond et ma prière. Seigneur, nous ne savons pas comment aller de l'avant, mais tu es capable de conduire et de guider ton peuple, Seigneur. Et c'est pourquoi nous regardons à toi ce soir encore et te donnons à toi seul la gloire, l'honneur, la louange et l'adoration. Continue à faire valoir tes droits, à recevoir ce qui te revient de plein droit au milieu de nous ce soir aussi. Seigneur, tu as fait de grandes choses pour nous ces derniers jours. Tu nous as parlé avec puissance par ta sainte et précieuse parole. Et nous te remercions d'être en mesure de parler aujourd'hui par ton esprit. Que tout honneur, toute louange, toute gloire et toute adoration soient rendus à ton merveilleux et glorieux nom de Jésus. Amen. Loué et remercié soit le Seigneur. Vous ne devez pas avoir peur que je prêche, mais nous sommes si reconnaissants de pouvoir nous réunir pour remercier le Seigneur de ce qu'il a fait pour nous. Je crois que quelqu'un a dit, celui qui croit, Dieu lui parle. Et celui qui obéit, Dieu agit par lui. Et lorsque nous entendons des paroles telles que celles qui nous ont été lues, nous nous demandons si nous ne faisons que croire. Et ensuite, entendre le Seigneur parler, ou si nous sommes prêts à obéir, à faire docilement dans l'obéissance ce qu'il a dit, comme Pierre l'a exprimé autrefois dans Luc 5, verset 5, à ta parole. Il était obéissant. Il a cru, c'est pourquoi le Seigneur a parlé. Il obéissait. Il a obéi, c'est pourquoi il a jeté le filet. Les choses sont tout simplement liées et nous devons nous laisser dire cela. Nous devons prendre cela très au sérieux. Si nous croyons que nous sommes arrivés au dernier jour et que la fin doit être et sera semblable au commencement, alors nous devons maintenant nous orienter à la fin vers ce qui était au commencement. Car Jésus-Christ est le premier et le dernier. Pour être le même, il doit être avec les derniers ce qu'il était au commencement, avec les premiers, pour pouvoir être le même. Et cela, nous le croyons de tout notre cœur. Maintenant, l'obéissance doit s'y ajouter pour que Dieu puisse agir, pour que Dieu puisse agir. Nous pouvons parcourir toutes les Saintes Écritures. Dieu a parlé à Abraham et lui a fait la promesse. Il a cru. Mais ensuite, Dieu a exigé quelque chose d'Abraham. Et Abraham fit comme le Seigneur. Dans le commandement, comme le Seigneur lui avait ordonné de faire, il fut même prêt à sacrifier son fils unique, c'est-à-dire qu'il avait déjà Ismaël, mais le fils de la promesse, il devait le sacrifier. Nous voyons ici que la foi et l'obéissance forment un beau couple. Cela va aussi très bien ensemble. Dieu a fait en sorte que d'une part, nous lui fassions confiance et croyons ce qu'il a dit. Et c'est ainsi qu'il nous parle et que d'autre part, nous reconnaissions que Dieu doit utiliser, veut utiliser des hommes qui sont à sa disposition ici sur terre. Nous l'avons tous lu dans le psaume 101. Comme nous l'avons lu, je chanterai la grâce et la justice. Je jouerai pour toi, ô Seigneur. Verset 2, je prendrai garde à une conduite sans être coupable. Quand viendras-tu à moi? Telle est la question. Quand viendras-tu? Quand te manifesteras-tu? Quand nos yeux verront-ils ce que nos cœurs croient? Ensuite, nous avons entendu la parole, « Vous serez mes témoins », acte 1, verset 8. Nous l'avons souvent souligné, un témoin doit avoir vu et entendu quelque chose. S'il se contente de dire « Ah, je veux dire, oh, je pense », nous pouvons tout de suite arrêter. Nous devons avoir été présents lorsque quelque chose s'est passé. Nous devons avoir vécu, vu, entendu. Et nous pouvons alors témoigner de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. C'est également ce que Jean a exprimé dans son épître. Ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché de la parole de vie. C'est ce que nous vous annonçons. 1 Jean, 1 verset 1, ce n'était pas, cela pourrait être ou peut-être, non, c'était une certitude sur toute la ligne. Ils ont vu le Seigneur, son ministère, ses souffrances, sa mort. Ils l'ont vu après la résurrection. Que voulait-il de plus? S'il n'avait pas cru, qui aurait pu croire encore? Si nous avons fait les mêmes expériences avec Dieu, alors nous pouvons nous aussi croire de tout notre cœur. Enfin, ce n'est pas notre problème, c'est ce que je veux dire. Notre problème, c'est l'audace. Mais nous n'avons rien à perdre. Dieu est fidèle à sa parole. S'il dit à Pierre, viens à moi, et qu'il n'y a pas de pont, qu'il n'y a que de l'eau, alors il doit faire en sorte que Pierre puisse marcher sur l'eau, parce que c'est lui qui lui a dit de venir à lui. Sinon, il n'a même pas besoin de lui dire, viens à moi. Alors il peut tout de suite lui dire, reste là où tu es. Mais parce que le Seigneur avait confiance que cet homme croirait et viendrait à lui sur la parole du Seigneur, il est simplement sorti de la barque et a marché sur l'eau. Nous devons tous apprendre la même chose. Nous avons également entendu cela. Le Seigneur a confirmé sa parole par des signes et des miracles puissants. Il n'a pas seulement fait la promesse, il l'a tenue. Et à l'époque, les disciples ont été surpris sans doute les 70, quand les 70, quand ils ont dit dans Luc 10, 17, « Seigneur, en ton nom, même les démons nous sont soumis. » Mais le Seigneur avait dit auparavant, dans Luc 10, 19, « Je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de Satan. Vous marcherez sur des serpents et des scorpions et rien ne pourra vous faire le moindre mal. Rien ne pourra vous nuire. » Les disciples ont cru ce que le Seigneur disait. Ils ont obéi, ils ont fait ce qu'ils disaient. C'est maintenant le point que nous devons tous prendre à cœur. On peut croire ce qui est écrit dans Marc 16, ce qui est écrit dans Matthieu 28, ce qui est écrit dans Luc 24 et ce qui est écrit dans Jean 20. On peut croire tout cela. Mais si on s'arrête à la foi, alors c'est une foi sans œuvre. Et alors, il est tellement... Ou alors, elle est tellement morte, alors on peut l'enterrer. Car Jacques dit très clairement, une foi sans œuvre est morte en elle-même. Elle n'a pas de vie. Elle ne peut pas marcher, elle ne peut pas entendre, elle ne peut pas parler. Elle doit être portée comme une idole. Et nous pouvons tous nous en passer. Dieu nous a fait vivre ensemble. Avec Christ, nous a vivifiés. Selon Éphésiens 2, verset 5. Nous a ramené à la vie avec lui. Il nous a fait grâce. Il nous a donné les promesses de sa parole. Déjà dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 43 et verset 10, Ésaïe 43, verset 10, le Seigneur a parlé au peuple d'Israël et a dit, vous êtes mes témoins, Ésaïe 43, verset 10. C'est ainsi que le Seigneur s'exprime et vous êtes mon serviteur, celui que j'ai choisi. Pas seulement des témoins, mais soyez mon serviteur. Je vous ai pris à mon service comme mes témoins. Vous êtes à ma disposition. Verset 10, vous êtes mes témoins. C'est la déclaration du Seigneur. Et vous êtes mon serviteur, celui que j'ai choisi. Nous voulons prendre cela à cœur ce soir. Être des témoins est le premier point. Être des serviteurs, c'est le second. Être disponible en tant que témoin, être à sa disposition afin que le Seigneur puisse nous utiliser dans son service et pour son service. Verset 10, afin que vous veniez à la connaissance, que vous me croyez, que vous compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a pas été créé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura pas. Verset 11, moi seul suis le Seigneur et hors de moi, il n'y a pas de sauveur. Verset 12, j'ai donné les annonces et aussi le salut. Et je l'ai fait entendre quand il n'y avait pas encore de Dieu étranger parmi vous. Et ainsi, vous êtes mes témoins. C'est la déclaration du Seigneur. Et moi seul suis Dieu. Oh, quelle parole merveilleuse. Vous êtes mes témoins. Vous êtes mon serviteur. Vous avez vu, vous avez entendu. Vous êtes à ma disposition. Quand je veux parler, agir, vous êtes là. Quand je parle, vous écoutez. Quand j'ordonne, vous le faites. Je compte sur vous. Vous êtes mon peuple. Vous avez une tâche Et cette tâche, vous devez l'accomplir, vous devez vous mettre à la disposition de cette tâche. Vous devez témoigner que je suis le Seigneur, que je suis Dieu. Vous devez témoigner que je vous ai racheté, que je vous ai délivré, vous êtes à ma disposition. Oh, quelle parole merveilleuse. Verset 10, vous êtes mes témoins. C'est la déclaration du Seigneur. Et vous êtes mon serviteur, collectivement, tous ensemble. Le serviteur du Seigneur, l'assemblée du Seigneur, l'église du Seigneur, le corps du Seigneur, à sa disposition, entièrement soumis à la tête, au chef. Ensuite se trouve la parole ou l'expression merveilleuse. Verset 10, « Et soyez mon serviteur, celui que j'ai choisi. » L'élection est déjà là, ici, contenue. Si Dieu nous a choisis et pas seulement appelés, alors cette élection divine a un sens et un but. Et nous pouvons fixer l'appel. Nous pouvons affermir notre appel et notre élection. Affermir. Nous devons parvenir à la connaissance, croire et comprendre qu'il est Dieu et que nous sommes son peuple et qu'il est le Seigneur et qu'il est notre sauveur en dehors duquel il n'y en a pas d'autre. Et il dit ici, j'ai donné les annonces au verset 12, Ésaïe 43. Et j'ai aussi accompli le salut. Il nous présente déjà la chose comme une œuvre accompli, achevé. Ensuite, dans le Nouveau Testament, comme nous l'avons lu, vous serez mes témoins. Actes des Apôtres 1, verset 8. Nous ne demandons pas seulement à Dieu de nous parler. Il l'a fait déjà. Il l'a fait de manière puissante. Laissons-le nous donner aussi l'obéissance et la confiance afin qu'il puisse nous utiliser. Je crois que c'est le sens de cette phrase et des deux phrases que j'ai lues. Celui qui croit, c'est à lui que Dieu parle. Celui qui obéit, Dieu ensuite peut agir à travers lui. Et nous voulons être des gens à qui il parle, mais aussi des gens qu'il peut utiliser, qu'il peut bénir, qu'il peut envoyer, qu'il peut prendre à son service. Verset 8, vous recevrez de la puissance. Actes Apôtres 1, verset 8, quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins, témoins pour moi à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Cette pensée aussi est merveilleuse, non seulement en ce qui concerne le globe terrestre en tant que tel, qui va jusqu'aux extrémités de la terre, mais aussi jusqu'à la fin des temps. Voici, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Pas seulement jusqu'aux extrémités de la terre, mais les deux. Jusqu'aux extrémités de la terre, le son parvient, mais il sera avec nous. Jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à ce que nous soyons enlevés du temps dans l'éternité. C'est là que nous avons la parole merveilleuse qui fait son sans doute encore partie de cela, tirée du chapitre 2 des Hébreux. Il y a dit que le Seigneur était avec les siens et qu'il a confirmé la parole qu'ils avaient apportée. Hébreux chapitre 2, du verset 3. Comment échapperions-nous si nous ne tenions pas compte d'un si grand salut? Celui-ci a en effet commencé par la prédication du Seigneur lui-même et nous a été confirmé par les témoins auriculaires. Verset 4, Hébreux 2. Dieu en a encore rendu témoignage par des signes et des prodiges, par de multiples actes de puissance et par des dispensations de l'Esprit Saint à sa discrétion. Il ressort d'ailleurs de ce verset que les épîtres des Hébreux ont été écrites par quelqu'un qui n'était ni témoin oculaire, ni témoin auriculaire, puisqu'il le souligne ici lui-même. Cela a en effet commencé au verset 3 par la prédication du Seigneur lui-même et nous a ensuite été confirmé de manière fiable par les témoins auriculaires. Nous sommes reconnaissants à Dieu, tout est toujours si clair si nous nous laissons seulement transfigurer ces choses par le Saint-Esprit. Nous n'avons pas été témoins oculaires, nous n'avons pas été témoins auriculaires, mais la parole et les choses qui se sont passées nous ont été communiquées de manière fiable par des témoins auriculaires et oculaires. Et nous le croyons comme si nous étions présents. Je le fais. C'est-à-dire que c'est ce qui m'arrive. Je peux le croire de tout mon cœur. Quand je lis les histoires du Seigneur, de la crucifixion, de la mise au tombeau, de la résurrection, etc., tout est si proche, tout est si vivant, tout est si réel pour nous. Quand les femmes viennent là au tombeau et qu'elles pensent qui va nous rouler la pierre, et elles arrivent à la pierre est enlevée, il y a un tremblement de terre, et voilà quelqu'un qui dit: que cherchez-vous? Vous les vivants parmi les morts, que cherchez-vous le vivant parmi les morts? Tout cela est pour nous si proche et si divinement réel. Personne n'a besoin de nous dire deux fois ce qui s'est passé. Nous le croyons parce que nous sommes destinés à croire. Celui qui n'y est pas destiné, on peut le lui dire 100 fois. Et là, comme Paul le mentionne dans 1 Corinthiens 15, 500 frères peuvent avoir vu le Seigneur en une seule fois après sa résurrection. Il y en aurait 5000 qui a secoué la tête et a dit: nous ne croyons pas. Ils n'ont pas non plus besoin de le croire, car la foi est un mystère avec les croyants et Dieu se révèle à ceux qui ont foi en lui. Les non-croyants mourront dans leur incrédulité, mais les croyants auront la vie par la foi. Quelle parole merveilleuse! Comme Abraham, la foi a été placée dans notre cœur par Dieu. Nous ne pouvons que croire. Mais à cette foi devrait maintenant s'ajouter effectivement la deuxième partie, cette confiance en Dieu et en obéissance à sa parole, faire ce qu'il nous a commandé. Si nous attendons de devenir dignes, nous deviendrons certainement vieux comme Mathusalem et nous n'oserons pas. Mais si nous disons: il nous a fait grâce, il nous a destiné à nous mettre à son service, à sa disposition, nous nous considérons comme, certes comme indignes, mais aussi comme son instrument mis à son service. Quelle parole merveilleuse! Car c'est par le Seigneur qu'elle a commencé, puis elle a été confirmée de manière, donc la prédication, puis elle a été confirmée de manière fiable par les témoins auriculaires. Nous croyons tous ceux qui ont parlé ici, mais pas ce qu'a dit le diable ou les infidèles ou Caïphe là-bas et les amis là-bas. Non, ce qu'ils ont dit, cela ne nous intéresse pas. Mais ils devaient aussi dire des choses. Le diable doit aussi parfois dire des choses. Non, mais nous ne le croyons pas. Nous ne croyons pas cela, mais ce que Dieu a dit, ce que ceux qui avaient quelque chose à dire ont dit, nous les croyons. Mais quand de faux témoins se présentent et disent: nous avons entendu et il a blasphémé et il a fait ceci, nous ne le croyons pas. Mais tout ce que Dieu a dit, nous le croyons de tout notre cœur. Précisément parce que nous sommes destinés à croire. À croire. Verset 3, Hébreu 2, et nous a ensuite été confirmé de manière fiable par les témoins auriculaires. Hébreu 2, verset 3. Et puis vient, bien sûr, le témoignage divin. Et puis, bien sûr, il y a le témoignage divin et c'est ce dont nous avons absolument besoin. Verset 4. Dieu ayant encore rendu témoignage à cela par des signes et des miracles. D'une part, les hommes de Dieu, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les messagers de Dieu, ils ont témoigné, ils ont entendu de leurs oreilles, ils ont vu de leurs yeux. Ils ont confirmé à ceux qui ne l'avaient pas vu ni entendu, ils l'ont affirmé. Mais cela n'a pas suffi. Puis, Dieu lui-même a encore témoigné. Comme il est écrit ici, Hébreux 2, verset 4, Dieu en a encore rendu témoignage par des signes et des prodiges, par de multiples actes de puissance et des dispensations du Saint-Esprit à sa discrétion. Donc, en plus de ce qu'eux, ils ont témoigné, Dieu aussi a rendu son témoignage. Et c'est le point que nous devons simplement souligner. L'heure de l'action de Dieu est maintenant arrivée. Et nous voulons être à sa disposition maintenant, tout en étant très clairement conscients que nous ne pouvons absolument rien faire. C'est la meilleure condition que nous puissions présenter à Dieu, à savoir que nous ne pouvons rien faire. Mais que nous sommes prêts à croire et à écouter ce qu'il a dit et que nous voyons et que nous soyons prêts, pardon, à obéir pour faire ce qu'il a ordonné. Que la foi et l'obéissance, l'ordre et l'exécution vont en quelque sorte de pair, pas à pas et main dans la main. Pierre a dit quelque part à peu près la même chose du témoignage que Dieu a rendu dans, dans 2 Pierre au chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1, il est question des témoins oculaires au verset 16. Ensuite, 2 Pierre chapitre 1 verset 16. Car nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues lorsque nous vous avons annoncé la puissance et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, mais nous avons été témoins oculaires de son admirable gloire. Et c'est ce que nous croyons. Nous croyons que Pierre, Jean et Jacques étaient là-bas sur la montagne de la Transfiguration, que la nuée lumineuse est descendue, qu'ils ont été enveloppés dans la lumière et que Moïse et Élie étaient aussi là-bas, s'entretenant avec le Seigneur sur la sortie qui serait avec lui à Jérusalem. Tout ce qui allait s'entretenant avec lui de ce qui allait se passer à Jérusalem et que la voix c'est alors fait entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est lui que vous devez écouter. Pierre était déjà sur le coup. Là, il voulait construire des tentes. C'était très beau. La gloire de Dieu était là. On devrait pouvoir y rester, mais pas construire des cabanes et s'installer, mais continuer à annoncer ce que le Seigneur a fait. C'est pourquoi Pierre a pu dire d'une manière si merveilleuse, verset 16 de Pierre 1, car nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues, lorsque nous vous avons annoncé la puissance et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, mais nous avons été témoins oculaires de sa gloire merveilleuse. Quelle grande grâce de Dieu que de pouvoir être témoin oculaire ou auriculaire de ce que Dieu a fait. Quand Dieu fait quelque chose, je n'ai pas peur de dire que nous sommes les témoins oculaires et auriculaires de ce que Dieu a promis pour ce temps et de ce que Dieu a déjà fait en ce temps. Et nous serons les témoins oculaires et auriculaires de ce que Dieu fera encore. Il ne peut en être autrement. Nous avons ici les paroles de la promesse divine et nous les croyons et nous suivrons cette foi. Et passerons à l'action, nous verrons Dieu agir lui-même et nous serons impliqués dans cette action de Dieu. Nous serons impliqués dans cette action de Dieu, car ce n'est pas nous qui agissons, nous sommes à sa disposition, à la disposition de Dieu. Et c'est lui qui parle, qui peut le faire parler, qui peut le pousser à agir. Celui qui nous a parlé, cela sera celui qui agira en nous et par nous. Il agira à travers nous et alors Christ sera glorifié. Comme il a dit, Père, toi en moi et moi en eux, afin que nous soyons tous un. Comme tu m'as envoyé, moi aussi je les envoie. Celui qui accueille reçoit, celui que j'ai envoyé me reçoit. Et celui qui reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Oh, quel lien! Dieu en Christ, Christ dans l'Église, la boucle est bouclée et l'œuvre de Dieu arrive à son achèvement par la grâce. Et certainement, il fera de plus grandes choses encore. Honneur, louange, gloire et adoration à son saint nom. Amen. Père céleste, je te remercie de tout cœur pour les paroles de Dieu que nous avons pu méditer ce soir. Seigneur, elles sont si importantes pour nous. Elles nous interpellent, pénètrent notre âme et suscitent la foi et la confiance. Tu parles à ceux qui ont vu ta gloire, qui ont entendu ta parole, avec qui tu as fait alliance. Vous êtes mes témoins et vous êtes mon serviteur. Alléluia. Je te remercie, ô Dieu fidèle, de t'être révélé de la même manière dans le Nouveau Testament, d'avoir racheté une église, des hommes à qui tu t'es révélé, avec qui tu as parlé, que tu as pu envoyer comme des témoins oculaires et auriculaires. Et tandis qu'ils rendaient témoignage en parole, tu as rendu toi aussi témoignage en acte à la parole qu'ils apportaient par des signes et des prodiges puissants. Fidèle Seigneur, nous n'étions pas là-bas et présents, mais nous le croyons. Nous nous sentons ainsi impliqués en esprit dans toutes ces choses, comme si nous avions tout vu et tout entendu. Alléluia. Oh, quelle grâce d'être témoin, d'avoir part à ce que tu fais, fidèle Seigneur. Nous n'étions même pas là en juin 1933, lorsque tu es descendu dans la lumière, et que des gens sont tombés en syncope lorsque tu as dit comme Jean a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ. Tu seras envoyé avec un message. Tu seras précurseur qui précédera le retour du Christ. Seigneur, nous n'étions pas là le 7 mai 1946, ni en janvier 1950. Lorsque la colonne de feu est descendue à Houston, Texas, devant des milliers de personnes et a été prise en photo par un critique de journal et un photographe. Mais Seigneur, nous avons cru au témoignage de ton serviteur et au témoignage de ton peuple. Et tu l'as confirmé par des miracles et des signes puissants. Nous serions des insensés si nous ne croyions pas. Mon Dieu, que les hommes nous fassent passer pour des fous. À la fin, nous sommes les héritiers qui riront. Les héritiers qui rient. Alléluia. Gloire, honneur et adoration à ton nom. Aujourd'hui, nous sommes peut-être les idiots. Le jour que tu as fait, nous entrerons comme les sages à la joie de notre Seigneur et nous prendrons le repas de noces avec lui. Seigneur, nous te remercions de tout cœur. Nous te confions maintenant tous ceux qui souffrent, là où coulent les larmes, là où se trouve la douleur. Que tu veux que tu puisses être proche et présent. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui se trouvent au milieu de nous. Et où qu'ils soient, Sauveur, viens toi de manière visible, perceptible, audible, tangible parmi ton peuple. Que l'obéissance de la foi nous permette d'aller de l'avant dans la foi et d'être à ta disposition. Je te remercie pour tous mes frères et toutes mes sœurs. Sauveur, bénis-nous ensemble de la richesse de ta gloire, de ta grâce. Au nom de Jésus, Amen.